Soit le Seigneur. Quand nous prions, quand nous partageons nos sujets de prière et quand après, finalement, nous avons ce moment où chacun de nous, nous avons l'occasion d'exprimer nos prières au Seigneur, très souvent, nos prières sont empreintes de ce que nos sens reçoivent et interprètent, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Peut-être voire même le fait d'avoir dû intervenir, aider quelqu'un, toucher cette personne qui peut-être est malade. On ressent des choses dans notre cœur et on a un fardeau différent, n'est-ce pas? Et parfois on pourrait être peut-être un peu injuste ou moins efficace dans notre prière parce que nos sens n'ont pas été suffisamment aiguisés, interpellés. Voire même on pourrait passer à côté de certains sujets de prière parce qu'ils n'ont pas fait écho dans notre cœur. C'est une réalité. Alors en réfléchissant à ça hier matin pendant que je faisais la route pour aller à la pastorale, il y a un texte qui m'a interpellé particulièrement et c'est ce passage où Jésus parle de Jean-Baptiste. Je vous invite à faire cette lecture et le titre du message de ce soir c'est « Prier pour apprendre à aimer ». Matthieu chapitre 11, à partir de la deuxième partie du verset 6, Matthieu 11, verset 6, il dit ceci, « À leur départ, Jésus se mit à dire à la foule, au propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu somptueusement ? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allé faire ? Voir un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est lui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Amen. » Et en repensant à ce texte, je sais, j'étais interpellé dans mon cœur parce que je me suis dit, Seigneur, c'est étonnant quand même le discours que tu tiens sur Jean, puisque certes a eu une responsabilité incroyable, celui qui a été choisi par Dieu pour être le messager, préparer le chemin, aller annoncer la venue de Christ. Mais tout au long de l'histoire que nous pouvons lire dans la parole de Dieu, il y a eu d'autres prophètes qu'on pourrait considérer avoir eu un ministère peut-être plus percutant, avoir accompli des miracles incroyables, avoir laissé beaucoup plus de chapitres qui parlent d'eux. Si je fais le parallèle entre les chapitres qui nous parlent de Jean-Baptiste et Ésaïe, Jérémie, on se dit quand même, il n'y a pas beaucoup de matière. Pour quelle raison Jésus parle ainsi de cet homme ? Pour quel est le regard de Jésus au point de dire « qu'est-ce que vous êtes allé contempler ?» Et je me suis rendu compte que, en effet, très souvent, le regard que nous pouvons porter sur les personnes ou les situations vont conditionner toute notre réflexion. Alors pourquoi Jésus dira « plus qu'un prophète ?» Et pendant que j'avançais sur la route, je me disais « Seigneur, toi, tu vois des choses que nous encore, peut-être, on a du mal à voir. Mais on a besoin d'apprendre à regarder. » Et en lisant ça, je me disais, Seigneur, il faut beaucoup d'amour pour aller prêcher dans le désert. Il faut beaucoup d'amour pour accepter de vivre sa vie comme ça, isolée, mis à part, éloigné de tout le monde, éloigné de sa famille, et décider d'aller vers ceux qui sont rejetés au désert. Peut-être que Jean, il aurait pu avoir plus de succès dans la ville. Mais ce n'est pas dans la ville que le Seigneur l'a envoyé. Il l'a envoyé dans le désert. Alors, est-ce que nous apprécions toujours les endroits où Dieu nous envoie ? Est-ce que ça vous arrive de vous plaindre, de dire, Seigneur, mais pourquoi tu m'as envoyé dans ce lieu ? Peut-être que si j'étais dans un autre endroit, je pourrais plus facilement témoigner de toi, voire même prier avec mes collègues. Seigneur, un lieu dans lequel je pourrais peut-être même rencontrer d'autres chrétiens. Seigneur, j'aimerais avoir la possibilité de parler de toi. Et là où je suis, Seigneur, je ne peux pas. C'est le désert, c'est compliqué. Et peut-être que Jean, il aurait pu tenir le même discours. Et pourtant, quand vous lisez les textes, nous dit que des foules allaient vers Jean pour être baptisées. Qu'est-ce qui pouvait produire un tel effet ? Certes, l'action de Dieu, mais derrière l'action de Dieu reste un homme, Jean. Et en réalité, on voit que Dieu avait posé dans le cœur de Jean un amour pour les perdus. Un amour particulier pour les déshérités, au point que Jean ne voyait pas ses besoins, il voyait les âmes qui avaient besoin du Seigneur. Un regard différent. Alors, j'aimerais qu'on puisse évoquer ensemble qu'est-ce qui a d'importance pour nous. Et comment on peut demander au Seigneur, par nos prières, Seigneur, permet que nous puissions apprendre à aimer au point de ne plus regarder peut-être à certaines choses qui n'ont pas véritablement d'intérêt, mais découvrir ce qu'il y a dans l'intérêt, que nos cœurs soient davantage pris par le désir de voir ta main à l'œuvre pour ces personnes, pour ces âmes. Alors, premier texte, Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, l'exemple par excellence. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans leurs synagogues et prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion car elles étaient lasses et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Les disciples, ils sont là, ils sont en train de suivre Jésus. Et ils voient Jésus faire des miracles. Et on pourrait se satisfaire de voir les miracles de Jésus. Non ? C'est plus que satisfaisant. Voir le Seigneur agir, guérir, voir le Seigneur relever, voir le Seigneur entendre le Seigneur prêcher l'évangile. Peut-être qu'il n'y aurait plus aucune place libre dans l'église. On serait obligé d'ouvrir les fenêtres, démonter les vitres ou ouvrir les portes parce que la foule serait encore dehors, non ? Comme avec Jésus. Il y a des endroits où le peuple qui était malade ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait trop de monde. Et pourtant, Jésus a un regard différent. Il aurait pu se satisfaire, excusez-moi, du succès de la réunion. Et se dire, mais là, sincèrement, c'était super. Hein ? Magnifique le moment de l'évangélisation. Et l'appel. Oh, combien de mains se sont levées à l'appel. Mais Jésus, ce qu'il voit, c'est quelque chose que peut-être nous, on serait passé à côté. Jésus voit la foule et il n'en a qu'un peu compassion parce qu'elle est lasse et abattue. Est-ce qu'on peut prier pour que le Seigneur nous donne son regard ? Qui nous éloigne de peut-être certains triomphalismes, certains désirs personnels de réussite. Et alors, dans le psaume 119, verset 37, j'ai trouvé ce texte qui dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre de ta voix. » Ça change tout. Et vous allez voir, par la suite, ça change beaucoup. Plus qu'on peut l'imaginer. Alors, c'est un cheminement. Cette pensée, c'est un cheminement. On voit dans le psaume 106, versets 44 à 46. Encore aussi, le regard de Dieu lui-même, qui, dans sa justice, fait toujours preuve de miséricorde. Il dit, il arrêta sa vue sur leur détresse. Lorsque il entendit leur cri. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bienveillance et il leur fit trouver compassion devant tous ceux qui les tenaient captifs. Quelle grâce pour nous, même Dieu dans sa justice. Il aurait pu s'arrêter sur la justice. Il aurait pu s'arrêter en disant « Ils ont mal agi, la punition doit aller jusqu'à son terme ». Avez-vous déjà été puni par vos parents? Au moins une fois. Et combien de fois avez-vous espéré que la punition soit levée? Si vous avez été puni une fois, au moins une fois. Non? Et peut-être que, et même voire certainement, la punition était juste. Moi qui ai connu pas mal de moments de ce type, je savais que la punition était juste, mais rien ne m'empêchait d'espérer que la punition soit levée. Et combien ça pouvait faire du bien au cœur de dire, « Ok, finalement, ils ont eu pitié de moi. » Non ? En lisant ce texte, moi je me dis, Dieu, dans sa sainteté, dans sa justice, lui qui ne supporte pas l'injustice, la méchanceté, lui qui a détourné son regard de Jésus parce qu'il portait le péché du monde, Jésus arrivera au point de dire, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le texte, il dit, il arrêta sa vue sur leur détresse. Quel regard miséricordieux, n'est-ce pas ? On va plus loin ? Je crois que nous avons suffisamment d'éléments pour dire, Seigneur, aide-nous, nous aussi, à avoir un regard comme ça. Jean chapitre 6, verset 27. Que notre vie et nos efforts soient en vue de l'éternité, frères et sœurs. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. C'est celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Amen. Dans le temps de prière, nous pouvons, chacun de nous, recevoir cette nourriture éternelle, mais il est question pour nous de travailler en vue de cette nourriture. Il est question pour nous de travailler et de œuvrer en vue de cette nourriture qui descend d'en haut, non pas être faussée dans nos regards, non pas être faussée dans notre action, mais dire, Seigneur, j'ai besoin que toi, tu nourrisses mes pensées, mon cœur, mon amour, de cette nourriture qui vient du ciel. Parce que ma manière de prière sera différente. Je dirais que la prière change nos priorités, n'est-ce pas ? Romains chapitre 15, verset 1 au verset 6, il dira ceci, Romains chapitre 15, verset 1 à 6, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. » Waouh ! On pourrait mettre pause. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification, en vue d'eux. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans cette unité que Dieu répond aux prières. Si nous sommes ensemble et pas forcément ensemble, on peut être ensemble dans le même lieu mais pas être ensemble. On peut être plusieurs mais être isolés chacun dans ses pensées. En ce moment même, il y en a qui sont attentifs à la prédication, d'autres peut-être qu'ils ont oublié quelque chose sur le feu. Ou qui sont en train de se dire, dès qu'on aura fini la réunion, je dois faire ceci, je dois faire cela. Je vous rassure, c'est normal, c'est la partie humaine. Mais il y a un moment où nous pouvons dire au Seigneur, « Seigneur, je suis là pour recevoir ta nourriture. Seigneur, amène-moi à l'essentiel, en vue de l'édification, en vue de la construction. Seigneur, donne-moi, alors moi c'est ma prière, je ne sais pas si c'est la vôtre, donne-moi la patience. Accorde-moi aussi, Seigneur, la consolation. Seigneur, donne-moi d'avoir un regard tel que le tien. On va plus loin, puisqu'on vient de dire Amen. Et vous verrez jusqu'à où ça peut aller. Parce que c'est la prière, frères et sœurs, qui nous aide et qui nous apprend à aimer, voire même voir autrement. Je pense à cette prière de l'apôtre Paul, Romains chapitre 10, verset 1, qui dira, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et de qui il parle ? De ces mêmes hommes, ces mêmes femmes, du peuple juif qui sont en train de le persécuter à cause de sa foi. Est-ce qu'il est en train de se plaindre de la persécution ? Qu'est-ce qu'il dit ? Le vœu de mon cœur, ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. D'autres, à un moment particulier, ils ont dit au Seigneur, veux-tu que nous faisions descendre le feu du ciel ? Ah, ça c'est des, je ne veux pas dire des Gaulois, parce qu'ils ne l'étaient pas, mais de ceux qui voudraient que les choses soient tranchées. Et la réponse du Seigneur, je pense qu'elle nous apprend beaucoup de choses. Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver, sauver. Et la prière de Paul, ça nous montre que malgré les combats qu'il pouvait vivre, son cœur était autrement. Hébreux chapitre 4, verset 16, nous dira « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Est-ce qu'on est prêt à nous approcher ensemble du Seigneur en vue d'un secours opportun ? Ce n'est pas le secours que nous, on a pensé. Parce que parfois, dans nos prières, on est tenté de dire à Dieu comment faire. Non ? Seigneur, si tu fais ceci et tu fais cela, parce qu'il m'a dit ceci, parce qu'il m'a dit cela. Mais Seigneur, vous n'avez pas besoin de le renseigner. Hein ? Il sait mieux que nous. Alors si on était plus concis, Seigneur, aide-le. Seigneur, le secours dont il a besoin. Mais moi aussi, Seigneur, donne-moi les paroles dont j'ai besoin. Seigneur, donne-moi de pouvoir l'assister de la bonne manière. Je termine. Un verset. 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Et vous verrez qu'avec ça, c'est clair que nous n'avons pas de temps à perdre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à avoir dans notre prière la juste vision des choses. Parfois, savoir prendre du recul et dire, Seigneur, montre-moi la réalité du cœur de la personne. Combien de fois le Seigneur peut nous inspirer, frères et sœurs, à ne pas nous arrêter au premier « je vais bien ». Peut-être le Seigneur nous poussera parfois à aller, excusez-moi, plus loin. Je me rappelle d'une petite dame, une petite sœur qui venait à l'église et qui à un moment, je croise et dans le couloir, le Seigneur me dit « parle-lui ». Alors je l'arrête, je lui dis « comment tu vas ma sœur ?»« Ça va frère ?» Je dis « non ». Moi le Saint-Esprit me dit que tu ne vas pas bien. « Comment tu vas ?»« Ça va frère, Dieu s'en charge ». Très bien, d'accord, mais comment tu vas vraiment ? Et cette sœur, finalement, elle me dit que depuis 15 jours, elle ne mangeait pas. Parce qu'elle devait payer l'enterrement de son mari, elle était perdue financièrement. Et ce matin, on a pu en discuter, et le Seigneur, en effet, il avait préparé toutes les solutions. Mais elle était toute seule dans son problème, elle ne savait pas comment s'en sortir. Et qui voudrait être utilisé par le Seigneur ? Pour pouvoir venir au secours des uns et des autres. Peut-être on n'a pas l'occasion de rencontrer quelqu'un, mais est-ce que ça ne vous est pas déjà arrivé que le Seigneur vous mette à cœur quelqu'un ? Priez pour cette personne, un fardeau ? Alors, est-ce que vous aimez les fardeaux que le Seigneur vous donne ? Les fardeaux que Dieu vous donne. Je ne parle pas des autres. Les fardeaux que Dieu vous donne. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, accorde-moi de porter les fardeaux que toi tu veux que je porte. Donne-moi des paroles, Seigneur. Donne-moi que la prière que je vais faire, Seigneur, puisse être une prière inspirée par le Saint-Esprit et qu'elle produise un effet, Seigneur, de voir des cœurs se tourner vers toi. Je termine par ça, par une histoire. Il y avait dans une église un ancien pasteur qui partait à la retraite. Et à chaque fois qu'il faisait un appel, il y avait une dame, une sœur d'un certain âge. Et à chaque fois qu'il faisait l'appel, cette sœur, elle venait et se mettait à genoux devant avec tous ceux qui s'approchaient. Et ce frère était heureux de voir la manière où Dieu répondait de l'action de sa main et les cœurs qui se donnaient au Seigneur. Et quand il est parti à la retraite, il a demandé à un autre jeune frère de venir. Et quelques temps plus tard, il vient prendre des nouvelles. Comment ça va ? Ce jeune frère, tout va bien. Et dit, la petite sœur, est-ce qu'elle vient toujours devant prier ? Ah non, je l'ai arrêtée. C'était pas normal. À chaque appel, elle est convertie, elle n'a pas besoin. Et dit, et l'ancien pasteur lui dit, et il continue à y avoir des personnes qui s'avancent. Un an moins. Et il t'a pas compris. Cette sœur, elle avait vraiment un fardeau pour les perdus. Et quand elle venait devant, elle intercédait pour les âmes perdues. C'est quelque chose que Dieu avait vraiment déposé dans son cœur. Et depuis des années, elle était dans ce travail, mais elle priait nuit et jour pour les perdus. Manque de vision. Alors, je ne dis pas qu'au prochain appel, tout le monde doit se mettre devant. Hein. Ce n'est pas ça. Mais je crois que c'est important de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ? On peut parfois, vous savez, être de ces hommes et de ces femmes qui sont dans la prière sans forcément que la prière, elle s'entende aux oreilles des hommes, mais certainement aux oreilles de Dieu. Alors, tout commence peut-être par nos sens. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, prends autorité sur mes yeux. Seigneur, prends autorité sur mes oreilles. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Seigneur, donne-moi de ne pas juger, mais de savoir, Seigneur, supplier ta grâce. Et même pour ceux qui me persécutent, Seigneur, fais que le vœu de mon cœur, que ma prière, soit qu'il soit sauvé. Nous, on aimerait que le Seigneur leur impose les mains des fois. Mais Paul dit, non, qu'il soit sauvé. On incline nos têtes et on prie. Seigneur, que ta main, que ta grâce, que ta miséricorde, Seigneur, change nos cœurs, nos vies. Que tu puisses nous transformer, Seigneur, et faire de nous, Seigneur, ces hommes, ces femmes remplis d'un amour qui n'est pas l'amour de ce monde, qui n'est pas l'amour humain, charnel, Seigneur, mais que ce soit cet amour spirituel qui nous permet de voir comme toi tu vois, Seigneur. Seigneur, donne-nous l'amour que tu avais mis en Jean, au point, Seigneur, d'être prêt, Seigneur, à donner sa vie pour que les âmes perdues dans le désert entendent parler de toi. Donne-nous d'avoir l'amour que tu avais mis en Paul, Seigneur, au point d'être prêt, Seigneur, à demander de tout son cœur le salut de ceux qui le persécutaient. Donne-nous d'avoir le regard de Christ. Seigneur, qui ne s'est pas arrêté, Seigneur, au miracle qu'il venait d'accomplir, peut-être même aux acclamations des uns et des autres, mais Seigneur, il regardait encore à toutes ces âmes qui avaient besoin de ton secours. Notre Dieu, nous te prions, aide-nous, Seigneur, à avoir le regard qui vient de toi. Aide-nous à avoir ce regard spirituel, cette sensibilité spirituelle, cette écoute spirituelle, ces sentiments, Seigneur, nourris par ta parole, nourris par ta pensée. Seigneur, que nous puissions être attentifs et à l'écoute de ta voix, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour tous les frères et sœurs, pour toutes ces âmes pour lesquelles nous intercédons ce soir. Seigneur, que ce soit plus que des mots, Seigneur, de notre part. Donne-nous des entrailles de miséricorde. Seigneur, et nous voulons contempler ta gloire, contempler ta majesté, œuvrer, agir, sauver, guérir, délivrer, parce que nous croyons dans ce Dieu Tout-Puissant. À toi et à toi seul toute la gloire, notre Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.